Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Nicolas Sendé. Réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Le. Deuxième temps de notre série consacrée aux nouveaux grands jeux dans l'espace post-soviétique. Après avoir regardé hier comment l'Union européenne exerçait un effet d'attraction sur les mobilisations populaires de la Biélorussie à l'Ukraine, avant d'aborder demain les ambitions de la Chine en Asie centrale, et puis jeudi, l'influence grandissante de l'islamisme dans la région, intéressons-nous aujourd'hui à la région du Haut-Karabakh, où le cessez-le-feu signé le 9 novembre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sous l'égide de Moscou semble replacer la Russie au premier plan.
Le président de la République d'Azerbaïdjan, Aliyev, le premier ministre de la République d'Arménie, Pachinian, et le président de la Fédération de Russie ont signé une déclaration de cessez-le-feu complet et de toutes les hostilités dans la zone du conflit du Haut-Karabakh à partir de minuit, heure de Moscou, le 10 novembre 2020. République d'Azerbaïdjan et République d'Arménie s'arrêtent aux positions occupées le long de la ligne de contact au Haut-Karabakh et le long du couloir reliant le Haut-Karabakh à la République d'Arménie.
L'accord a été annoncé simultanément par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, célébrant une victoire, le président arménien Nikol Pachinian évoquant lui une décision incroyablement douloureuse, et puis le président russe, qu'on entendait à l'instant, Vladimir Poutine, arbitre de ce conflit qui dure depuis des décennies. Quelques 2000 soldats russes seront donc déployés dans la zone pour veiller au maintien du cessez-le-feu, offrant à Moscou une présence militaire en Azerbaïdjan inédite depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Mais si l'on a tôt fait de voir en Poutine le gagnant géopolitique de cette crise, il faut rappeler qu'il y a encore quelques semaines, son absence de soutien militaire à l'Arménie, pourtant alliée de la Russie au sein de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, était interprétée comme le révélateur du recul de Moscou dans la région. Les soldats arméniens ont en effet dû affronter seuls les Azerbaïdjanais largement soutenus par la Turquie et ses supplétifs. Alors comment interpréter ce retour en force de Moscou dans le Haut-Karabakh? Dans quelle mesure pourrait-il être remis en cause par la présence accrue d'Ankara dans la zone? Quelles conséquences aussi pour l'Arménie et pour l'ensemble des pays du Caucase? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Marie Mindras, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue au CNRS, professeur à Sciences Po, auteur notamment de La forteresse assiégée, Vladimir Poutine et les Russes. Avec nous également Tornike Gordadze, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin en direct depuis la Géorgie. Vous êtes enseignant à Sciences Po, ancien ministre de l'intégration européenne de la Géorgie. Alors ça fait des années que ce conflit dans le Haut-Karabakh ressurgit régulièrement, mais c'est vrai qu'avec cette nouvelle séquence qui s'était ouverte le 27 septembre dernier, on a beaucoup souligné le caractère inédit de la chose à cause de cette intervention turque dont on imaginait qu'elle pourrait peut-être dangereusement faire durer les choses. Et puis on a beaucoup insisté aussi sur le fait que Poutine semblait particulièrement attentiste à l'époque, refusant d'aller prêter main forte à l'Arménie malgré cet accord de coopération sécuritaire qui le lie à Erevan, j'en parlais dans mon introduction. Et puis finalement, Marie Mindras, Poutine revient sur le devant de la scène avec cet accord de cessez-le-feu. Vous avez été étonné de voir Poutine revenir comme ça sur le devant de la scène dans ce dossier-là, qui plus est avec le costume de faiseur de paix, Marie Mindras?
Je fais une lecture un petit peu différente. Poutine, effectivement, n'a pas souhaité défendre son seul allié militaire dans la région, qui est la petite Arménie enclavée. Il faut vraiment rappeler que l'Arménie est liée à la Russie par un accord de défense bilatérale et également par le traité de défense collective de Tachkent, auquel l'Azerbaïdjan n'appartient plus depuis des années. Donc, l'allié de la Russie, c'est l'Arménie. Et donc Poutine a été incapable ou n'a pas souhaité soutenir l'Arménie. Et je ne vois aucun retour de la Russie dans la région, simplement parce que l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie ont confié à Vladimir Poutine la négociation d'un cessez-le-feu qui était déjà rédigé par eux à l'avance. La Russie, de toute façon, a toujours une base militaire en Arménie. Elle perd le contrôle de toutes les frontières et ce n'est pas la présence de 1960 soldats russes en territoire donc désormais de nouveau azerbaïdjanais et contrôle en partie le contrôle avec les Azéris du corridor de Latchine et qui renforce la position russe dans la région. Tout au contraire, je vois la sphère d'influence de la Russie continuer de se rétrécir après, je dirais, la perte de l'Ukraine, la perte de la Géorgie, bientôt la perte de la Biélorussie et évidemment aussi la grande nouvelle en Moldavie, c'est que la nouvelle présidente est pro-européenne et pas pro-Kremlin.
Oui, on en parlait hier absolument avec Florent Parmentier, oui. Alors que les résultats étaient tombés hier matin, effectivement. Torniquet Gordadze, est-ce que vous voyez les choses de la même manière? C'est-à-dire que contrairement aux apparences, d'une certaine manière, la Russie est peut-être dans un moment de recul de son influence. Et puis, malgré ce recul, si recul il y a, il faut bien admettre que c'est bien Moscou qui est parvenu à se placer en médiateur et a annoncé le règlement de ce conflit. Donc c'est une victoire au moins diplomatique. Et la question qui se pose beaucoup, Torniquet Gordadze, c'est est-ce réellement la victoire diplomatique de Poutine ou est-ce davantage la défaite diplomatique de l'Occident? Est-ce que ça révèle la puissance russe recouvrée ou l'effondrement d'une diplomatie occidentale devenue totalement impuissante? Torniquet Gordadze.
Bon, il y a plusieurs questions dans votre question.
On a un peu de temps.
Oui, je pense comme Marie que c'est une je pense que c'est une victoire tactique russe, c'est-à-dire on se demandait où était la Russie au début de ce conflit. La Russie est revenue, elle a négocié cessez-le-feu, elle apparaît comme la puissance médiatrice, elle continue d'avoir de l'influence sur les deux belligérants, elle prétend avoir sauvé l'Arménie et le Karabakh, donc de ne pas avoir permis à l'Azerbaïdjan une victoire militaire totale. Et de l'autre côté, elle obtient la présence militaire sur le territoire qui est, d'après le droit international, le territoire azerbaïdjanais. Et cette présence militaire, même si ce sont des troupes de paix, étaient quand même inexistants depuis l'indépendance de l'Azerbaïdjan. Donc la Russie prétend qu'elle est revenue en force, que c'est elle sort victorieuse de ce conflit. Mais en même temps, quand on regarde ce qui se passe réellement, cette victoire apparaît beaucoup moins évidente, surtout sur le plan stratégique. D'abord, la Russie a perdu quand même de sa réputation auprès des Arméniens, qui étaient comme Marie l'a dit, leur seul allié historique aussi dans la région. Les Arméniens, quoi qu'on raconte aux Arméniens que c'est la faute à Pachinian et c'est la faute aux tentatives de Pachinian de se rapprocher à l'Occident que l'Arménie a perdu le soutien de la Russie, la majorité des Arméniens est extrêmement déçue de la politique russe et c'est également la leçon pour tous les autres alliés de la Russie dans la région qui maintenant vont considérer ce soutien de la Russie avec un peu de méfiance. Donc ça c'est une perte. Deuxièmement, l'Azerbaïdjan a tout fait pour que cette présence russe soit compensée ou neutralisée par une présence accrue de la Turquie. Même si l'accord qui a été signé le 10 novembre ne prévoit pas la présence massive des militaires turcs dans la région, on parle d'une présence d'un groupe d'officiers turcs dans le centre qui va diriger les opérations, l'Azerbaïdjan va tout faire avec des accords bilatéraux avec la Turquie pour que la Turquie apparaisse dans la région. Donc ça, c'est quelque chose qui est une perte pour la Russie, c'est quelque chose qui n'avait pas eu lieu depuis très longtemps, depuis plus d'un siècle. On n'a pas vu les militaires turcs apparaître dans la région et la nature de l'alliance entre l'Azerbaïdjan et la Turquie est tellement forte que la Russie doit se poser des questions. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas plaire à la Russie à long terme. L'Azerbaïdjan considère que les 1900 ou 2000 militaires russes qui vont être présents sur son territoire ne vont pas pouvoir faire grand-chose parce que contrairement à la Géorgie des années 90 et la Moldavie des années 90, où la Russie a joué ce rôle de peacekeeper, l'Azerbaïdjan est un État beaucoup plus fort, qui est de plus renforcé par son alliance avec la Turquie, qui ne permettra pas à la Russie de faire n'importe quoi dans la région. Vous avez également raison que l'Occident apparaît extrêmement faible. Absent de la région, c'est une comparé à cette période qui a commencé à la fin des années 90 jusqu'à en gros la présidence Obama, l'Occident était beaucoup plus présent. L'Occident avait proposé plusieurs plans de paix, les Américains avaient proposé deux plans de paix, plus l'OSCE avait également proposé les principes de Madrid. Là maintenant, on voit que l'Occident est terriblement absent. Cet accord ne mentionne même pas le groupe de Minsk, et je pense que l'Occident doit se réveiller. Et là, il a encore des cartes à jouer, notamment si l'Occident veut sauver le président arménien Pachinian, qui aussi est puni par sa volonté de diversifier la politique étrangère, mais aussi essayer de reconstruire ses liens avec l'Azerbaïdjan, qui est aujourd'hui quand même très dépendant de la Turquie. Si l'Azerbaïdjan veut également avoir d'autres options, l'Occident peut jouer également une carte.
Alors, on va prendre les choses dans l'ordre, Marie Mindras. Il y a beaucoup de choses dans ce que vient de nous dire Tornike Gordadze. Commençons par la question de la défaite, là, qui semble assez criante, de la diplomatie occidentale et en particulier de l'Europe. Quel regard vous portez sur notre incapacité au niveau européen, au niveau occidental, à proposer un plan de paix? Est-ce que vous semble que tout cela est lié à une conjoncture sanitaire qui fait que les Occidentaux sont occupés par autre chose, ou c'est plus grave que cela, Marie Mindras?
C'est plus grave que cela. Tornike a mentionné le groupe de Minsk, donc qui a été créé en 1992 pendant la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a duré quand même près de 6 ans, hein, de 1988 à 1994. Il y a eu une guerre très destructrice entre ces deux pays autour justement de la problématique territoriale et du Haut-Karabakh. Ce groupe de Minsk est présidé donc par la France, les États-Unis et la Russie, et pendant près de 30 ans a été absolument incapable de régler cette question d'un conflit qui n'a jamais été gelé, mais qui a toujours été en train de mijoter. D'ailleurs, il y a eu un début de guerre au printemps 2016 qui a duré quelques jours. Alors, c'est pour ça que parler de victoire diplomatique de la Russie aujourd'hui, alors que la Russie a attendu 44 jours de combat, donc une vraie victoire militaire de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, pour dire finalement, bon bah écoutez, là les amis, on s'arrête. Je pense qu'il faut insister sur le fait que la Russie aussi avait une responsabilité importante dans la présidence du groupe de Minsk depuis donc près de 30 ans, et qu'elle n'a rien fait pour faire avancer les choses. Donc, il me semble que là, nous avons un échec des négociations multilatérales, que Covid ou pas Covid, les pays européens, les États-Unis ne seraient absolument pas intervenus, sauf peut-être en essayant de proposer de présider une négociation, mais que n'auraient pas accepté les Azerbaïdjanais, puisque cette guerre-ci, comme l'a très bien dit Tornike, est très différente parce que la Turquie est derrière, et c'est parce que la Turquie est derrière que le président azerbaïdjanais, Aliyev, a décidé de lancer cette offensive.
Et en revanche, Marie Mindras, j'imagine que vous êtes parfaitement d'accord pour dire que s'il y en a un qui sort renforcé, en tout cas victorieux de la séquence, c'est bien Erdogan. C'est une nouvelle victoire militaire qui conforte le président turc dans ses velléités interventionnistes. Ça, c'est assez clair, Marie Mindras.
Oui, et alors, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que la Russie a une relation très compliquée avec la Turquie d'Erdogan. Ils se sont trouvés dans des alliances militaires ad hoc, comme par exemple l'intervention à la fois russe et turque dans la guerre en Syrie. Avec la Turquie avait ses intérêts et la Turquie avait d'autres intérêts. Dans ce rapport de force, la Turquie, à mon avis, est en position de force par rapport à la Russie, parce que la Russie est plus attentiste, plus en retrait. Ce n'est pas elle qui lance une offensive, c'est la Turquie qui lance l'offensive dans cette compétition, à la fois avec l'Occident et avec la Russie, et qui prétend vraiment à être un pouvoir dominant dans la grande région, au-delà du Caucase, bien sûr.
Tornike Gordadze, on va peut-être encore nuancer ce que je qualifiais tout à l'heure de victoire diplomatique de Poutine avec cet accord de cessez-le-feu et essayer de comprendre ce qu'il y a réellement derrière, parce qu'il semble qu'il y a un certain nombre de points qui soit pas parfaitement clair, et notamment s'agissant de la manière dont sera gérée cette fameuse zone neutre autour du corridor de la Chine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qu'on sait de cet accord? Il faut peut-être indiquer que Vladimir Poutine, s'il y a un objectif qu'il a tenu avec cet accord, c'est qu'il voulait laisser de côté les États-Unis et la France, qui s'étaient beaucoup investis dans ce dossier, et qu'il a parfaitement réussi à le faire, à tel point que visiblement la diplomatie française n'a pas été au courant du contenu de cet accord, chose que habituellement on fait. Qu'est-ce qu'on sait de cet accord-là, et est-ce qu'il est applicable en l'état, ou est-ce qu'il va falloir clarifier les choses? Et là, peut-être que Poutine aura besoin d'associer les Occidentaux pour qu'il soit applicable sur le terrain. Tornike Gordadze.
Alors, cet accord prévoit un certain nombre de choses. Il est très mauvais déjà pour l'Arménie, qui perd le contrôle de tous les districts azerbaïdjanais que l'Arménie avait conquis dans les années 90. Le Haut-Karabakh perd une partie de son territoire, donc la partie sud qui passe directement aux mains de l'Azerbaïdjan, notamment la ville de Choucha. Et le Haut-Karabakh devient un vrai enclave. C'est-à-dire l'Arménie perd des territoires qui étaient situés entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. Donc du coup, le lien entre le Haut-Karabakh et l'Arménie est très affaibli. Et il passe uniquement par cette petite route appelée le corridor de Latchine, qui est située donc au sud de l'Arménie et à peu près au milieu du Karabakh. Et cette route va être contrôlée principalement par les Russes.
Principalement, ça veut dire que la Turquie sera aussi présente.
Lavrov a donné une conférence de presse où il a dit que la Russie n'accepterait pas que les Turcs patrouillent sur le territoire du Haut-Karabakh qui n'est pas sous le contrôle azerbaïdjanais. Donc, et d'ailleurs apparaissent les premières divergences et frictions entre la Russie et la Turquie. Les Russes ne veulent pas que les Turcs patrouillent du côté non contrôlé par l'Azerbaïdjan. Donc, ils accepteraient éventuellement que les Turcs patrouillent du côté contrôlé par l'Azerbaïdjan, mais pas au là. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, Marie a tout à fait raison quand elle a dit que les relations entre la Turquie et la Russie étaient extrêmement compliquées. C'est une relation à plusieurs couches. Au premier niveau, il y a une entente très forte qui vise justement la diminution du rôle des Occidentaux, mais après, à tous les niveaux, donc au niveau inférieur, on voit leur intérêt totalement opposé. On voit leur intérêt opposé en Syrie, en Libye, et maintenant, je pense que d'ici quelques temps, on verra qu'il y a une espèce de troisième front qui va s'ouvrir au Karabakh. Enfin, ça va pas être peut-être l'affrontement direct, mais à travers leurs alliés respectifs. Donc, pour revenir maintenant à l'accord, comment la Russie compte y exercer son contrôle, on voit déjà quelques jours après la signature de l'accord que la Russie déploie des armements qui sont assez inhabituels dans le cas de dans les opérations de maintien de la paix. Notamment, on voit apparaître les pièces d'artillerie Grad, qui sont des armes offensives, et ça, c'est pas prévu dans les accords. C'est pour ça que je pense on verra à l'usage comment va se comporter la Russie. Je n'exclus pas qu'il y ait des tensions qui apparaissent entre la Russie et l'Azerbaïdjan, entre la Russie et la Turquie. Rappelons juste que quand la Russie a joué ce rôle de médiateur en Géorgie et en Moldavie dans les années 90, ces deux pays ont une expérience extrêmement négative du rôle de la Russie. On les appelait pas des peacekeepers, donc des gens qui maintiennent la paix, mais des peace, la pièce. PICE, c'est-à-dire les gens qui maintenaient les morceaux de l'Empire et non pas la paix. Donc la Russie va essayer de tout faire pour interpréter à sa manière cette opération de maintien de la paix. Si la Russie juge qu'il faut affaiblir l'Azerbaïdjan, bah, elle va réarmer les Arméniens, ou va leur permettre d'être plus actifs. Si elle considère qu'il faut faire la pression sur l'Arménie et notamment rendre la situation politique de Pachinian encore plus difficile, bah, elle va en mettre une couche pour que les Arméniens soient en plus grande difficulté. Donc vous voyez, la Russie obtient quand même un moyen de pression avec ses pratiques depuis longtemps rodées d'intervention hybride, etc. Donc c'est pour ça que je pense que la Russie garde quand même un moyen de pression, y compris un moyen de pression tout à fait négatif pour capitaliser sur cette situation sécuritaire.
Vous parliez de la ville de Chouchi, Choucha en azéri, Chouchi en arménien, une ville du Haut-Karabakh donc devenue arménienne de facto en 92 après le départ des Azéris qui y vivaient. Et là donc la ville repasse sous contrôle azéri.
Même s'il ne reste que 50 combattants arméniens dans le monde et en Arménie, ils ne pourront pas reprendre la ville. Je ne les écoute même pas, dit cette femme. Je suis sûr que nos soldats n'ont pas concédé Chouchi. Nos soldats vaillants défendent nos frontières et je suis certaine qu'on va l'emporter. C'est un jour historique pour nous, pour tous les Azerbaïdjanais. Nous attendions cela depuis des années. J'avais 13 ans quand nous avons perdu Choucha, quand la ville a été occupée. À présent, je suis très heureux que mes enfants soient là. Ma fille a 13 ans et elle vit cela avec moi. C'est parfait de voir cela.
Voilà, témoignage d'Arméniens dans les rues d'Erevan, mais aussi d'Azerbaïdjanais du côté de Bakou, témoignage recueilli par Euronews. Marie Mindras, en imposant cet accord, Poutine entérine une situation qui est évidemment favorable à l'Azerbaïdjan et très défavorable à l'Arménie, nous disait Tornike Gordadze. Et pourtant, Moscou et Erevan sont liés par un accord de sécurité. Pourquoi cette fois Poutine acte une situation qui est favorable à l'Azerbaïdjan? Est-ce qu'il s'agissait aussi pour lui de se repositionner dans une posture peut-être plus équilibrée entre Bakou et Erevan?
Vladimir Poutine n'a eu aucune initiative dans ce conflit. Il n'avait pas la main. Et ce n'est pas lui qui a imposé le cessez-le-feu. Les Azéris et les Turcs lui ont proposé d'être le maître de la négociation. Ça a été simplement un accord diplomatique entre eux, et d'ailleurs ça a duré quelques semaines puisque Poutine avait convoqué les ministres azerbaïdjanais et arméniens. Donc Poutine
et Turcs. Les Turcs ont été consultés.
Bah, ils sont derrière les Turcs. Bien sûr, ils n'ont pas été convoqués à Moscou pour discuter avec les Azerbaïdjanais. Ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est une catastrophe humaine pour les Arméniens. Et je crois qu'il faut vraiment insister. Nous avons en ce moment, nous observons l'exode de population de ces quatre districts autour du Karabakh qui étaient peuplés d'Arméniens et qui sont obligés de repartir.
Où est-ce qu'ils vont vivre, ces gens? Ceux qui vivaient à Chouchi, par exemple.
Vous savez, moi j'étais observatrice pour le référendum sur l'indépendance de l'Arménie en septembre 91, dans le Zanguezour, dans le sud de l'Arménie, où j'ai rencontré des centaines et des centaines déjà de réfugiés arméniens du Karabakh, donc en enclave, en territoire azerbaïdjanais. Je n'avais jamais vu un tel malheur, et depuis je n'ai jamais vu un tel malheur. Donc c'est la même chose qui se reproduit. Et les Russes ont laissé faire ça. J'aimerais rappeler aussi que par les 9 points du cessez-le-feu du 9 novembre, il n'y a pas un mot sur le futur statut du Haut-Karabakh. Donc on va rester dans une situation de non-droit pour ces populations qui vivent dans le Haut-Karabakh. J'aimerais ajouter aussi que l'Arménie n'a eu de soutien de nulle part, puisque l'Iran, qui est voisin de l'Arménie au sud, a soutenu les Azerbaïdjanais. Israël a soutenu les Azerbaïdjanais. Donc c'est une donc au fond la Russie a perdu son allié militaire, l'Arménie, puisque l'Arménie aujourd'hui n'est plus un État souverain et le Karabakh est une enclave dans un pays enclavé, puisque l'Arménie est un pays enclavé. Ça a augmenté sa dépendance de la Russie et ça va rendre les Arméniens dans une incapacité totale.
Ouais.
Dans une région très hostile, et pour nous Européens, avec les changements géopolitiques majeurs qui se produisent actuellement, avec justement le passage à l'Ouest de nombreuses républiques ex-soviétiques, hein, notamment Ukraine, Géorgie, Moldavie, bientôt la Biélorussie. Nous avons une responsabilité aussi par rapport envers les populations qui habitent la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie.
Oui, même si hier on a beaucoup insisté sur le fait qu'en réalité, dans les pays que vous avez cités, bien sûr on regarde vers l'Europe, mais en définitive c'est plus parce qu'on essaye d'asseoir un processus de démocratisation, et je mets des guillemets, on n'aime pas beaucoup ce terme, mais enfin on comprend ce dont il est question, que d'une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Mais Tornike Gordadze, compte tenu de ce que nous dit Marie Mindra, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, au fond, Poutine n'a pas vraiment choisi, il a subi la situation. Alors, on l'a sollicité, il s'est placé en faiseur de paix, mais parce que, en réalité, d'autres avaient choisi pour lui. Et que même l'accord, finalement, était ficelé et qu'il n'est pas intervenu pour le construire. Compte tenu de cette situation, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'Azerbaïdjan, toujours aidé par la Turquie, de poursuivre sa prise du contrôle du Haut-Karabakh? Il y a encore 2/3 à peu près du territoire qui est encore sous contrôle de l'Arménie. Qu'est-ce qui empêche Bakou et son allié turc de récupérer ce qui reste?
Oui, en fait, c'est les 2/3 de juste pour un petit rectificatif, les 2/3 ne vont pas être sous le contrôle de l'Arménie. Les forces armées de la République d'Arménie doivent se retirer d'après l'accord. Mmh. Et donc, cette région va rester plutôt sous le contrôle des Russes, en fait, des forces de paix russes. Alors, pour revenir à ça...
Mais la question est la même, Tornike Gordadze. C'est-à-dire, compte tenu du fait que la Russie, en fait, subit plus qu'elle n'agit, qu'est-ce qui empêche l'Azerbaïdjan de reprendre l'ensemble du contrôle et seul avec la Turquie?
Une minute par rapport au fait que la Russie a subi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La Russie a fait l'analyse au début du conflit. Elle a vu que les rapports de force les dernières années avaient changé en faveur de l'Azerbaïdjan, à la fois sur le plan démographique, économique, militaire. L'Azerbaïdjan apparaissait comme beaucoup plus fort que l'Arménie. Et donc l'Azerbaïdjan, en plus renforcé avec son alliance avec la Turquie, est passé à l'offensive. La Russie ne pouvait pas faire grand-chose. Elle a accompagné cette offensive azerbaïdjanaise, et à un moment donné, elle a tout fait pour intervenir, pour ne pas complètement perdre son influence dans la région. Et en plus, elle a produit ce narratif qui est en train d'être répandu en Arménie pour dire « bah, je ne suis pas intervenu parce que j'allais pas aider cet élève de Soros, Pachinian, qui nous a trahis. Et si l'Arménie avait été plus sage et plus pro-russe, on les aurait aidés. » Alors, c'est un narratif qui marche qu'à moitié, je pense, parce que les Arméniens, une partie des Arméniens, notamment l'opposition arménienne qui était très liée à la Russie, considère que c'est exactement à cause de ça, et donc ils essayent d'affaiblir Pachinian. Mais la majorité des Arméniens, en tout cas une partie significative des Arméniens qui avaient participé justement à cette révolution en 2018 pour destituer ce pouvoir corrompu et très lié à la Russie, eux, ils ne considèrent pas ça comme une lecture vraie du conflit. Alors, pourquoi l'Azerbaïdjan n'a pas continué cette offensive militaire alors qu'ils en avaient les moyens? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a cette partie. Donc, jusqu'à maintenant, l'Azerbaïdjan a repris des territoires où la présence démographique arménienne était faible. C'est-à-dire les 7 districts occupés par l'Arménie, il y avait peu d'Arméniens qui y habitaient. Il y avait des Arméniens qui s'était installé dans les régions qui sont situées entre le Karabakh et l'Arménie, notamment Kelbajar, Latchin et un petit peu Gubatli. Ces trois régions où on les voit maintenant les Arméniens repartir vers l'Arménie et brûler leurs maisons. Mais ailleurs, les quatre autres districts azerbaïdjanais, il n'y avait pas de peuplement arménien. Dans le sud du Karabakh, il y avait quelques milliers d'Arméniens qui se sont déplacés. Mais là, après la prise de Chouchi, les Azerbaïdjanais arrivaient dans les régions où la présence démographique arménienne était extrêmement importante. Et là, s'ils avaient pris ces régions militairement, ça serait terminé en nettoyage ethnique, massacre, etc. Donc, la réputation de
l'Azerbaïdjan
international...
Et Sabakou ne le voulait pas.
C'est-à-dire que ça allait être vraiment très difficile pour eux, parce qu'ils allaient avoir toute la communauté internationale, qui est déjà assez critique vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, sur le dos. Ils auraient dénoncé les nettoyages ethniques, l'Azerbaïdjan aurait subi peut-être des sanctions, etc. Donc c'était quelque chose qui était difficile, cette décision était quand même très difficile pour l'Azerbaïdjan à prendre. Aussi, la Russie a quand même joué un rôle, parce que d'après ce que me disent mes sources, les Russes ont notamment empêché la prise de la Chine déjà au milieu du mois d'octobre, ce corridor que l'Azerbaïdjan voulait prendre, en y établissant à quelques kilomètres de ce corridor une base militaire sur le territoire de l'Arménie, en signifiant que c'était la ligne rouge que les Azerbaïdjanais ne devaient pas franchir. Également, la Russie a mobilisé son armée à la frontière nord de l'Azerbaïdjan, avec le Daghestan, notamment cette république nord-caucasienne qui fait partie de la Russie. Ils ont commencé des exercices militaires non planifiés dans cette région. On a vu la flottille militaire de l'armée russe se réveiller dans la mer Caspienne et faire des exercices à quelques dizaines de kilomètres de la capitale Bakou. Donc les Russes ont quand même fait comprendre à l'Azerbaïdjan que à un moment donné, ils devaient stopper leur offensive. Et l'Azerbaïdjan a décidé de ne pas confronter définitivement la...
Donc ça veut quand même dire, pardon Tornike Gordadze, ça veut quand même dire que quand à Moscou on dit stop, ça suffit, qu'on dessine une ligne rouge du côté de Bakou, on écoute.
Bah, oui, bien sûr. Parce
donc
que
on n'est pas aussi impuissant qu'on a l'air de le décrire quand même.
Non.
D'accord.
Je n'ai pas dit que la Russie était impuissante. Je pense que la situation lui a échappé au début, pendant tout au long des conflits, mais du déroulement de ces opérations. Mais à un moment donné, la Russie risquait tout perdre. C'est-à-dire, si l'Azerbaïdjan avait gagné à 100%, donc récupéré tout le Karabakh plus les régions autour du Karabakh, la Russie aurait perdu sur les deux fronts. Aurait perdu auprès des Arméniens définitivement. C'est-à-dire que à quoi ça sert cette alliance avec un pays et qui ne fait rien pour nous. Et l'Azerbaïdjan n'aurait pas eu besoin de la Russie parce qu'ils auraient recouvert la totalité du territoire qui considère que donc le territoire de l'Azerbaïdjan plus le Karabakh, et en plus ils auraient eu une alliance avec la Turquie, donc aucun des deux n'aurait eu besoin ça aurait été la fin de l'influence russe dans le Caucase. Aujourd'hui, la Russie conserve l'influence, qui est beaucoup moins forte qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Là-dessus, je suis d'accord avec Marie, avec d'autres analystes. La Russie a sauvé des meubles et elle a encore une capacité de nuisance, comme je disais, d'accord. Parce qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle va faire avec ses troupes de paix, comment elle va les employer, va-t-elle déstabiliser l'Azerbaïdjan, va-t-elle déstabiliser Pachinian. Donc elle a encore quelques armes en main.
Marie Mindras, compte tenu de la situation, comment doit faire l'Europe? Est-ce qu'il faut saisir l'occasion et affirmer davantage le lien avec l'Arménie, et en particulier développer des relations commerciales, économiques, sachant qu'elles sont déjà très fortes avec Moscou, donc on va avoir quand même des difficultés à renverser le rapport de force. Comment est-ce qu'on doit faire pour justement saisir cette opportunité qui est un recul de cette influence russe?
Juste avant de répondre à votre question, je voulais ajouter un autre point de complexité à ce que Tornike vient de nous expliquer. Il me semble qu'il y a une raison pour laquelle l'Azerbaïdjan ne souhaitait pas reconquérir tout le Karabakh. D'abord parce qu'il fallait faire vider toutes les populations arméniennes du Karabakh. Et on a vu que avec cet exode de ces derniers jours, les Arméniens qui doivent quitter les districts hors du Haut-Karabakh brûlent leurs maisons, coupent les poteaux électriques, etc., etc. Donc moi je ne sais pas, mais je ne pense pas que Bakou souhaitait aller aussi loin, parce que Bakou avait un autre intérêt, et c'est le 9e point du cessez-le-feu du 9 novembre. Il y a un 9e point qui est à 100% dans l'intérêt de l'Azerbaïdjan et qui concerne la province du Nakhitchevan, qui est un territoire peuplé d'Azerbaïdjanais, mais de l'autre côté de l'Arménie, donc c'est une exclave de l'État azerbaïdjanais. J'espère que nos auditeurs iront regarder des cartes.
Il faut absolument, parce que c'est plein d'enclaves et d'esclaves, cette histoire-là. Et d'ailleurs, on va comprendre dans quelques instants pourquoi c'est comme ça. C'est aussi le fruit de l'histoire. Mais vous avez raison, il faut une carte pour comprendre.
Il faut le rappeler, parce que ce 9e point donne absolument tout contrôle à l'Azerbaïdjan pour ce qui est de la communication, du mouvement des personnes, etc. Et donc, pour l'Azerbaïdjan, c'est essentiel. C'est comme si, au fond, le Nakhitchevan n'était plus une esclave parce que le territoire arménien n'était plus qu'une sorte de sanctuaire qu'on peut traverser. Mmh. Donc ça, je crois que c'est le plus important et c'est ce que Bakou voulait obtenir comme but principal.
Marie Mandras, sur la question de ce que doit faire maintenant l'Europe.
C'est très compliqué pour nous. D'abord, rappelons que la Turquie est membre de l'Alliance Atlantique. La Turquie est membre de l'OTAN, ce qui nous met dans une position évidemment très compliquée.
Qui ne nous empêche absolument pas de développer une collaboration avec Erevan.
Oui, mais la collaboration avec Erevan, pour quoi faire ? L'Arménie
Pour profiter du vide laissé par le recul de l'influence russe.
Non, mais nous parlons là de coopération économique.
Absolument. Et militaire, peut-être.
Non, mais militaire, c'est totalement impossible, puisque l'Arménie, aujourd'hui, n'a plus aucune souveraineté pour ce qui est de sa sécurité. Mmh. C'est fini après une défaite pareille. Mmh. Et pour ce qui est de la coopération économique, rappelons que l'Arménie, tout comme les 5 autres États de l'entre-deux, c'est-à-dire les États qui sont entre la Russie et nous, l'Europe, ces 6 États, dont l'Arménie, sont liés depuis des années par le partenariat orientale de l'Union européenne. Et donc, tous ces instruments de coopération sont en place. Mmh. Mais l'Arménie est un pays exsangue, pauvre, qui n'a pratiquement pas de ressources qui lui donnent un pouvoir économique ou une attractivité économique. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire et nous devons faire, c'est d'abord une aide humanitaire.
Tarnike Gordadze, est-ce que vous pensez que c'est la seule chose qu'on puisse faire, qui est déjà une chose très importante, évidemment, l'aide humanitaire, où on doit aller plus loin? Quand je dis « on », c'est les Européens. Je vous demanderai une réponse courte, s'il vous plaît, et ensuite on va accueillir une nouvelle.
Je pense qu'on doit aller plus loin, parce que si géopolitiquement l'Europe, et pas seulement l'Europe, je pense aussi aux États-Unis qui vient d'élire un nouveau président, veulent jouer un rôle dans la région, ils doivent être beaucoup plus actifs que les 10 dernières années. Et d'abord, soutenir les forces dans ce pays qui, comme vous avez dit au début de l'émission, qui sont en faveur de la démocratisation, parce que ce soutien, parce qu'il y a des pays dans la région où la majorité de la population ne veut pas de ces régimes autoritaires post-soviétiques dirigés par les oligarques, etc. Et donc ça, c'est la carte principale à jouer pour les Occidentaux. On a tendance à critiquer les néoconservateurs américains qui ont un petit peu décrédibilisé cette exportation du modèle démocratique à l'étranger, mais on n'a pas d'autres meilleurs alliés, je parle des Occidentaux, Européens et Américains, dans la région, que des forces qui sont relativement puissantes et qui viennent vraiment des populations qui veulent des changements dans ces régions. Donc il faut les accompagner.
Et vous savez de quoi vous parlez, Tarnike Gordadze, puisque vous nous parlez depuis la Géorgie, dont la présidente, une ancienne diplomate française, est connue pour son attachement aux valeurs européennes. Donc évidemment, il faut replacer ça dans ce contexte aussi.
25 ans est un pays qui tente de se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. Et donc pour eux, c'est une catastrophe si l'Occident se retire de cette région, évidemment.
On est avec vous, Tarnike Gordadze, et vous, Marie Mandras, dans cette série consacrée à l'espace post-soviétique, le nouveau grand jeu. On parle du Haut-Karabakh.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Il est temps que les choses bougent en Turquie.
Bienvenue, chef Kate, bienvenue.
Chef Kate ?
Mais tout le monde est contre nous. Les Arméniens, les Grecs, les Français, les Italiens, les Bolcheviks.
Les conservateurs aussi, n'est-ce pas, chef Kate ?
Assez ! Nous devons rester unis derrière Kemal.
Avec Kemal, ce sera le chaos. La fin de nos traditions. Enver Pacha est le seul qui puisse bâtir une grande Turquie.
Enver Pacha est fou, et sa grande Turquie est une chimère.
Ce n'est plus une chimère.
Attendez !
Il ne s'agit plus d'attendre, mais d'agir.
Il avait simplement d'autres idées.
Des idées dangereuses. Trop dangereuses pour nous. Débarrassez-vous du corps. Chef Kate, tu seras le premier à l'apprendre. L'heure que nous attendions est arrivée. Enver Pacha a rompu les relations avec les bolcheviks du Caucase.
Voilà, extrait de la 26e aventure de Corto Maltese, la maison dorée de Samarcande, mise ici en image animée, écrite et dessinée par Hugo Pratt, bien sûr. On nous plonge là dans le Caucase, dans une période absolument décisive. On est entre décembre 1921 et décembre 1922. On y croise le général turc Enver Pacha, l'un des responsables du génocide des Arméniens de 1915. On y croise aussi la figure de Mustafa Kemal Atatürk, ainsi qu'un certain Joseph Djoukachvili, pardon, dit Staline, évidemment. Bonjour, Staline Termination.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, professeure Aline Alco, directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques, et vous venez de signer un article intitulé « Au Karabakh, cessez le feu sur une ligne de faille géopolitique » sur le site The Conversation, dans lequel vous expliquez que cette situation actuelle rappelle terriblement les porosités qui existaient entre l'Empire russe et l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale. On pense parfois, Staline Termination, que ce conflit au Haut-Karabakh remonte au moment de l'émergence de l'URSS, qu'il y a une responsabilité très forte de Staline, puisque c'est lui qui, en 1921, avait décidé d'attribuer la région à l'Azerbaïdjan soviétique. Mais on oublie que cette période de la sortie de la Première Guerre mondiale est une période d'intenses conflits dans cette région de la Transcaucasie.
Oui, je vais répondre à cette question, mais avant d'y répondre, je voudrais quand même revenir à ce qui a été dit par vos interlocuteurs dans la première partie de l'émission. Puisqu'il s'agit de narratif, il y a des choses vraiment essentielles qui n'ont pas été précisées. Premièrement, à propos de l'attitude de Poutine qui aurait été empêché d'une intervention dans le conflit, il n'a pas été rappelé que Poutine n'est lié à l'Arménie que dans le cadre d'un traité dit OTSC qui ne prévoit une intervention russe que si le territoire de l'Arménie proprement dite est attaqué. Or là, ça ne répondait pas en l'espèce à cette configuration puisque le Haut-Karabakh n'est reconnu par personne, y compris par l'Arménie. Deuxième chose, il a été question d'une Arménie non souveraine. Je voudrais quand même tout de même tempérer un petit peu ce propos, même s'il est vrai que le premier ministre et non pas le président Pachinian est en position effectivement difficile. Et troisièmement, concernant Chouchi, dont les circonstances de la prise n'ont pas été absolument clarifiées, effectivement, il y a quand même un point qui devrait vous intéresser, c'est qu'apparemment Chouchi, pour l'instant, n'est pas occupé par les Azeris, qu'elle serait défendue par les tanks russes, selon des motifs qui ne sont pas stipulés dans l'accord, en vertu de motifs stratégiques qui ont bien entendu été annoncés par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Maria Zakharova. Autrement dit, ces petites précisions pour dire simplement que si on parle de... il serait plus juste de parler d'attentisme de la Russie plutôt que de...
Que d'impuissance.
Oui, que d'impuissance. Ça me semble véritablement une vue de l'esprit, vraiment une façon peut-être un peu même militante d'interpréter la situation actuelle. Alors maintenant, concernant cette fameuse phrase qu'on entend tout le temps et partout, que le Haut-Karabakh effectivement a été donné à l'Azerbaïdjan par Staline en 1921, effectivement, vous avez tout à fait raison, Florian Delorme, de vouloir approfondir cette question, parce que, en fait, on ne comprend pas la portée de cette phrase sans avoir en tête tout un large contexte historique qui a donc produit en fait cette espèce de laboratoire de frontières et plutôt laboratoire plutôt explosif comme on le voit aujourd'hui à l'époque soviétique et même avant. Donc pour que les auditeurs déjà comprennent bien, c'est que effectivement cette Transcaucasie qui est une région de marche et de piémont de l'Empire russe au XIXe siècle, donc limitrophe de deux empires, de deux autres empires, hein, l'Empire ottoman et l'Empire perse. Cette région donc a été intégrée au XIXe siècle dans l'Empire russe et finalement, si on regarde dans le temps long, les frontières ne se sont stabilisées qu'à partir de l'époque soviétique, donc au début des années 20. Et même ça, ça a été donc un processus extrêmement complexe. Pourquoi c'est intéressant d'y revenir à 100 ans de distance maintenant? Parce que, comme on l'a vu, la chute de l'URSS en 1991 a finalement transformé des frontières qui étaient des frontières, disons, administratives, presque virtuelles entre des républiques soviétiques fédérées ou même des frontières d'entités, de districts, d'oblasts autonomes à l'intérieur de ces républiques soviétiques. Tout cela n'avait pas une grande valeur tant que l'Union soviétique existait. Mais la machine infernale s'est évidemment déclenchée à partir de la chute de l'URSS et même un peu avant la chute de l'URSS, à partir du moment où en fait ces frontières interrépublicaines au Caucase et ailleurs sont devenues des frontières internationales, et qui plus est en ce qui concerne notre problème caucasien, sur une ligne de faille géopolitique qui fait frontière entre l'ex-Union soviétique et la Turquie, membre de l'OTAN, comme il a été rappelé peut-être un peu trop tardivement dans la première partie de l'émission.
Et on fait au mieux, hein, t'as les déterminations, effectivement, on essaye de dire les choses, en tout cas, ce que vous dites est d'autant plus intéressant qu'il y a encore un autre parallèle qu'on peut faire avec ce qui s'est passé il y a un siècle maintenant, c'est que en réalité, cette décision de Staline, je parle sous votre contrôle, mais elle était destinée à ménager les intérêts la nation qui, dans le Caucase, est la plus proche de la Turquie, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan. Donc c'est en réalité une concession qui est faite aux Turcs, sachant qu'on est dans un moment où, en réalité, de fortes tensions entre la Turquie, qui n'est pas encore la Turquie de kémaliste, enfin, qui est en train d'advenir, et on est dans cette Russie post-impériale, pas tout à fait encore soviétique. On est dans un grand jeu où les tensions sont très fortes entre ces deux puissances-là. Mais déjà à l'époque, ce qui est très important, c'est que on met de côté les Occidentaux et on va régler ces petites affaires entre nous. Je me trompe pas.
Vous trompez un petit peu.
Les Turcs et les Russes.
Non, oui. Alors là où vous avez raison, c'est que effectivement la situation actuelle et l'espèce de grand jeu entre Erdogan et Poutine et les relations turco-russes d'aujourd'hui rappelle en effet, en dépit des tensions objectives qu'ils ont, des accidents qu'ils ont dans leurs relations, le pragmatisme qui liait déjà à l'époque, au début des années 20, les bolcheviks, la Russie des soviets et la Turquie kémaliste, qui étaient des régimes idéologiquement apparemment totalement contradictoires, mais qui avaient des intérêts communs, d'abord parce que c'était deux régimes en devenir et complètement au banc des nations européennes, hein, ni la Turquie kémaliste forcément, puisque elle remettait en cause le sort que lui avait fait les puissances occidentales, et la Russie des soviets aussi, parce qu'elle est au banc des nations. Et donc, il y a un pragmatisme qui va œuvrer au rapprochement de la Russie des soviets, ou la Russie soviétique, si vous voulez, pas encore l'URSS, parce qu'elle naît en 1922, et la Turquie kémaliste. Et pour des tas de raisons, qu'évidemment, il est très difficile de résumer en quelques minutes, mais pour des tas de raisons, le régime soviétique, ou plus exactement, le bureau caucasien, c'est-à-dire la petite bande des bolcheviks caucasiens qui se réunit à Tiflis en juillet 1921. Excusez-moi, Tiflis, c'est le nom, c'est le nom ancien de Tbilissi, la capitale actuelle de la Géorgie. Et donc, ce bureau caucasien va décider une première fois d'attribuer le Karabakh aux Arméniens, et puis le lendemain, le 5 juillet, le lendemain de cette réunion du 4 juillet 1921, le 5 juillet, eh bien, une décision inverse est prise effectivement avec l'aval et l'assentiment de Staline, qui œuvre en faveur d'un arbitrage pragmatique. Alors Staline, tout le monde voit ce personnage, mais il est important de le replacer dans son contexte caucasien, qu'il est d'origine géorgienne, qu'il n'a pas une affection particulière pour les Arméniens, il faut le rappeler aussi, et qui donc fait valoir au pouvoir bolchevique effectivement ce qu'on pourrait appeler la nécessité d'une pragmatique entente soviéto-turque, imposant de favoriser l'Azerbaïdjan qui vient d'être soviétisé à ce moment-là, excusez-moi, c'est un peu compliqué effectivement, cet Azerbaïdjan soviétique est lui-même la première république musulmane soviétique qui devient une espèce de vitrine pour les peuples de l'Orient auxquels les soviets justement commencent à jouer la petite musique de l'anticolonialisme, etc. Puis en plus l'Azerbaïdjan a aussi à cette époque le pétrole, et donc il y a un intérêt, des intérêts à la fois frontaliers et des intérêts objectifs à favoriser l'Azerbaïdjan plutôt que les Arméniens, parce que les Arméniens, ils sont comme aujourd'hui, ils ont en fait rien à offrir, rien. Et donc, on donne ainsi ce Nakhitchevan qui était effectivement peuplé d'Arméniens autrefois, on en forme une exclave, pour employer ce néologisme, et qui donc va faire frontière, va bloquer justement cette frontière entre l'espace soviétique et la Turquie et l'Iran. Donc on le donne à l'Azerbaïdjan, et puis même chose pour le Haut Karabakh.
Et puis quelques semaines plus tard, en octobre 1921, on a un traité très important entre la Turquie kémaliste d'une part et les républiques soviétiques de la Transcaucasie d'autre part. C'est le traité de Kars qui prévoit que tous les accords précédents sont caducs, sauf celui passé entre la Russie soviétique et la Turquie. Donc ça veut dire que notamment le traité de Sèvres, sous l'égide des Occidentaux, ne s'applique pas. Voilà, c'est effectivement un moment extrêmement compliqué, mais ô combien passionnant. Merci infiniment, Taline Termination, d'avoir été avec nous ce matin. Puis un grand merci à nos deux invités, Marie Mindras et Tornike Gordadze, de nous avoir éclairés sur cette situation. Je rappelle, Marie Mindras, que vous êtes notamment auteure, autrice de La forteresse assiégée, Vladimir Poutine et les Russes. Et un grand merci à vous également, Tornike Gordadze, vous étiez avec nous depuis la Géorgie. On poursuivra notre série consacrée à cet espace post-soviétique, à ce nouveau grand jeu demain. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier et son Tour du monde des idées.
Le Tour du monde des idées, Brice Couturier.
Brice, qu'on retrouve par téléphone. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et toute cette semaine, Brice, vous détaillez les critiques menées actuellement dans les pays anglo-saxons contre la méritocratie. Et l'un des premiers intellectuels à avoir sonné la charge a été le philosophe ghanéen Kwame Anthony Appiah.
Oui, dans une étude parue en octobre 2018 dans la New York Review of Books intitulée The Red Baron, et qui était consacré à Michael Young. C'est Young qui a créé le néologisme méritocratie. Cet éminent sociologue a été l'une des têtes du parti travailliste d'après-guerre. Il est carrément, figurez-vous, l'auteur du manifeste « Regardons l'avenir en face » qui a permis à Clement Attlee de battre Winston Churchill aux élections de 1945. Ce programme comportait l'instauration du système britannique d'assurance santé universelle et l'enseignement gratuit et obligatoire jusqu'à 15 ans. Plus tard, en 1954, Michael Young a créé, figurez-vous, la première association britannique de défense des consommateurs. Et en 1969, l'Open University, qui a permis à 2 millions de Britanniques, issus de toutes les classes de la société, d'étudier. Young, grande figure de la gauche britannique, était un visionnaire. Et il était décidé à briser la hiérarchie sociale figée qui caractérisait l'Angleterre d'avant-guerre, une véritable société de caste. Il voulait en renouveler les élites en confiant les rênes du pays à des compétences issues de toutes les classes sociales, une forme de révolution tranquille. Pourtant, observa Appiah, Young, le visionnaire, pressentait que ces réformes allaient échouer. Et sur le modèle du 1984 de George Orwell, il a publié en 1958 un roman absolument prophétique titré « The Rise of Meritocracy ». Le narrateur est un historien qui écrit en 2033. Il raconte comment la Grande-Bretagne est redevenue une société de caste, plus impitoyable encore que dans le passé. La nouvelle classe dirigeante a imposé la formule QI, plus effort égale mérite. Ce n'était pas une aristocratie de naissance, ni une plutocratie des puissances financières, il dit-on, non, c'était une vraie méritocratie du talent. Or, dans ce livre, l'ascension de la méritocratie, donc l'esprit de révolte contre l'injustice de la classe ouvrière qui avait disparu, renaît vers la fin. Les cancres au lycée, qu'on a persuadés durant des décennies qu'ils méritaient leur sort minable, finissent par se soulever contre cette nouvelle classe dirigeante du mérite. Elle est devenue en effet encore plus arrogante que les anciennes aristocraties, puisqu'elle prétend que son pouvoir et ses privilèges sont absolument mérités. La carapace du mérite, écrit Yang, avait inoculé les vainqueurs contre la honte et les reproches. Alors voilà, nous ne sommes pas en 2033, mais c'est pourtant notre problème.
Et Brice Kwame Anthony Appiah montre l'actualité dans l'Amérique profonde, celle de Trump, de la prophétie de Jung.
Eh oui, pour la première fois, figurez-vous, depuis longtemps aux États-Unis, il y a davantage de personnes pour s'identifier comme appartenant à la classe ouvrière, au col bleu, qu'à la classe moyenne. Je cite, l'un des moteurs du populisme qui a propulsé Donald Trump au pouvoir, dit Appiah, c'est le pressentiment, c'est le ressentiment envers une classe définie par son éducation et ses valeurs. La population cosmopolite, bardée de diplômes, qui domine les médias, la culture publique et les emplois supérieurs aux États-Unis. Les populistes, eux, pensent que les élites libérales méprisent les Américains ordinaires, ignorent leurs inquiétudes et utilisent leur pouvoir pour leur propre avantage. Dans son livre qui vient de paraître en français « La tête, la main et le cœur », le Britannique David Goodhart lui fait écho, je cite, « Une relation symbiotique est née entre les valeurs des gens de n'importe où, libéraux et modernes, écrit-il, et celles de la vaste classe émergente des travailleurs cognitifs, qui, en règle générale, ont tendance à valoriser le succès individuel, l'accomplissement personnel, l'innovation, l'autonomie et la mobilité, et que les changements sociaux n'effraient pas. Bien sûr, l'ouverture économique est souvent la priorité des plus diplômés du centre droit et l'ouverture sociale et culturelle, celle des plus instruits du centre gauche. Mais les deux ont convergé ces dernières années dans un double libéralisme économique, social et culturel. Et c'est précisément ce que l'école bleue rejette, comme l'avait prévu Michael Young dans « The Rise of Meritocracy ». Car la politique est désormais trustée presque exclusivement par d'anciens élèves des institutions universitaires les plus prestigieuses. Et la France étant citée par la plupart des critiques de la méritocratie comme l'exemple le plus spectaculaire de ce phénomène. Une élite minuscule, 80 élèves par promotion de l'ENA, truste tous les postes de responsabilité les plus éminents du pays. Comme l'écrivent deux universitaires allemands, Mark Bovens et Hans-Schritt Wille, dans Diplomatie, démocratie, l'élitisme éducatif a engendré une nouvelle forme d'oligarchie. Non seulement ces élites du savoir ne représentent pas la société dans sa diversité, mais elles donnent le sentiment de mener des politiques favorables aux intérêts particuliers de leur étroit milieu, plutôt qu'à celui des gens ordinaires, ce qui fragilise la démocratie.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On vous retrouve demain, cher Brice. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.